Alors je mets en marche et on commence donc. Eh bien, je voudrais vous demander d'abord, monsieur, quelques détails personnels, si vous permettez. D'abord, votre nom m'intéresse, le nom Cassegrain. Est-ce que vous pourriez expliquer, me parler un peu du nom Cassegrain que vous avez?
Le nom Cassegrain, c'est un nom beauceron. Vous savez que la Beauce est une partie du centre de la France, et dans cette Beauce, il y a beaucoup de terres à blé. Et alors, dans l'ancien temps, il y avait énormément de moulins à vent, et nous pensons que l'origine de notre nom vient des meuniers. Les meuniers cassaient le grain. Donc, en extrapolant, si vous voulez, on a pu dans un temps s'appeler meunier. Et puis alors après, nous sommes devenus les Cassegrains. Donc le nom Cassegrain vient certainement d'un nom bronceron très ancien.
Oui, oui.
Et on ne retrouve ce nom d'ailleurs que dans la Beauce.
Oui. Alors vous êtes de la région, vous-même?
Ah, entièrement de la région. Oui. Entièrement. Aussi loin que mes recherches ont pu pousser, parce que je me suis passionné quand j'avais 17-18 ans pour rechercher un petit peu l'origine de ma famille, du moins du nom même. Je suis remonté, je crois, jusqu'en 1724 ou 25, dans une petite commune à côté de... dans un petit village, à côté de Châteaudun, où il y avait des Cassegrains qui étaient meuniers, dans un moulin à vent. Alors, vous voyez, c'est vraiment très typique, très, très régional.
Et vous êtes né aussi vous-même?
Je suis né à 25 km d'Orléans, dans un petit pays qui s'appelle Pathé.
Ah oui.
Pâté qui n'est pas tellement cher aux Anglais, parce que Jeanne d'Arc a battu le général anglais, oui. D'une façon magistrale,
tiens,
paraît-il.
Alors maintenant on revient à Orléans prendre notre revanche.
D'accord, c'est normal.
Oui, vous êtes une grande famille, vous, personnellement?
Personnellement, j'avais trois frères.
Oui.
Il y en a deux qui sont décédés dernièrement. Maintenant, nous ne sommes plus que deux frères.
Mm-hmm.
Mais nous avons énormément de cousins dans la région, qui portent d'ailleurs le même nom, ou des alliés familiaux. Et quand on se retrouve entre Cassegrains, la tradition est de dire « bonjour mon cousin ».
Oui. Ah oui.
Alors que ça n'est pas tout à fait vrai.
Oui.
Parce que ça doit être très très étendu dans le temps. C'était peut-être vrai au départ, mais maintenant... Hein.
Mm-hmm. Et est-ce que votre famille a toujours été une famille, comment est-ce qu'on dirait, commerçante ou industrielle ou...
Dans le commerce, oui, notre affaire même a été créée en 1871, à Pathé, dans le petit pays où je suis né. Alors ça fait presque 100 ans. D'ailleurs, l'année prochaine, nous fêterons le centenaire de la maison.
Ah oui.
Oui.
Où est-ce que vous avez fait vos études?
Ah, j'ai fait mes études à Mamers, qui est une sous-préfecture de la Sarthe. Et je les ai fait là du fait de la guerre, étant donné qu'en 1940, j'avais 12 ans, et les écoles d'Orléans étaient détruites par les bombardements de la guerre, et il n'y avait plus de place. Et mes parents ont donc dû trouver une autre pension pour continuer mes études.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez fait en terminant vos études?
Aussitôt, je me suis mis dans l'affaire.
Oui.
Aussitôt, j'ai repris le commerce.
À 18 ans
À 17 ans.
À 17 ans.
Je n'étais pas un très bon élève.
Ah oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait venir à Orléans?
Eh bien, à un moment, avec mon père, qui avait une petite affaire à cette époque-là, c'est-à-dire donc en 52-53, en 52-53, nous n'étions que 4 dans l'affaire. 4 employés, mon père et moi. Donc c'était vraiment une très petite affaire. Et puis alors, nous avons pensé essayer de trouver autre chose. Parce qu'à l'origine, nous ne faisions pas ce métier que je fais maintenant. Nous étions uniquement marchands de bois, matériaux et charbon. Et alors, comme... à force de causer, de discuter, de voyager, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement d'avenir dans ce genre de profession et qu'il fallait trouver autre chose. Alors à ce moment-là, je me suis intéressé à l'électroménager. Et après 2 ans d'expérience dans la Beauce pour voir si ça allait marcher, nous avons acheté un magasin à Orléans. Et je suis venu à Orléans à cette époque-là en 1954.
Ah oui. Et vos affaires ont poursuivi depuis?
Oui. Alors en 1954, si vous voulez, il y a eu un genre de séparation. Sinon financière, du moins de fait, entre l'affaire de Pathé, que continuait à diriger mon père, et l'affaire d'Orléans, que je dirigeais complètement. Nous avons commencé, ma femme et moi, pendant 1 an, avec un ouvrier. 3 ans après, nous avions 4 employés, et à ce moment-là, je suis arrivé à un autre tournant. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que d'ici quelques années, le commerce d'électroménager flancherait. C'est-à-dire que c'était un bon métier, mais comme tout bon métier qui se respecte, tous ceux qui espéraient gagner de l'argent sont venus s'installer et vendre de l'électroménager, dont nous étions de trop. Et il fallait trouver autre chose. Alors, il s'est produit que j'avais gagné quand même un petit peu ma vie, et que je cherchais autre chose pour m'étendre. Et alors, à ce moment-là, j'ai fait connaissance des dirigeants d'une très grosse affaire française qui recherchait un dépôt sur Orléans. Alors, j'ai donc monté ce premier dépôt, qui n'était pas ici, qui était dans une petite rue d'Orléans. Et en 1962, je créais le premier dépôt d'Orléans, qui a employé jusqu'à 1969 jusqu'à 14-15 employés. Alors depuis 2 ans, nous sommes venus donc ici, nous avons fait construire, nous sommes venus ici, et nous employons maintenant 25 employés.
Vous êtes en pleine expansion.
C'est un métier en pleine expansion. Oui. C'est un métier en pleine expansion.
Oui. Ici, vous ne vendez pas en détail ici, je crois.
Ici, nous ne vendons pas en détail. Nous n'avons affaire qu'aux installateurs de chauffage central et de sanitaire. Mm-hmm. Et aux électroménagistes, puisque nous vendons maintenant le matériel que nous vendions au détail dans le temps, nous le vendons maintenant aux revendeurs, mm-hmm. moins aux installateurs.
Mm-hmm. Donc vous êtes grossiste.
Grossiste. Le métier, mon vrai métier, c'est commerce de gros, maintenant. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mais vous gardez toujours votre magasin en ville?
Oui. Alors c'est ma femme qui s'en occupe. Oui. Avec 2 employés là-bas. Oui.
Bon, c'est très intéressant, monsieur. Et maintenant, je voudrais vous entretenir, ou que vous m'entreteniez, sur vos intérêts politiques.
Ah.
Oui,
s'il vous plaît. Morceau.
Un gros morceau. Oui, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la politique?
J'ai commencé à m'intéresser à la politique en 1958, au moment où les affaires françaises, enfin, à mon avis, marchaient mal, parce que ça peut être très, très, très controversé. Et à ce moment-là, j'ai, si vous voulez, entendu l'appel du général de Gaulle, que je n'avais pas entendu en juin 40. J'étais trop jeune.
Ah oui. Mais vous étiez jeune aussi en 58.
Oui, j'étais jeune en 58, oui. Évidemment, je n'avais que 30 ans.
Oui.
Mais j'ai toujours été passionné par l'histoire et par la politique. Je lisais, je lis d'ailleurs beaucoup toutes les revues, tous les livres politiques. J'ai toujours été passionné. Et même à l'école, ça remonte bien loin, j'étais vraiment un passionné d'histoire. Alors, si vous voulez, ça suit au fond une pensée complète. Mm-hmm. Je n'ai jamais renié mon amour de l'histoire, si vous voulez. Et alors maintenant que je peux la faire un peu, alors je me passionne pour ça.
Et c'est surtout l'appel du général que vous avez entendu et auquel vous avez répondu.
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi?
Parce que j'estimais qu'il fallait un changement. Ce n'était pas possible de vivre dans ce genre de surenchère, de démagogie, de laisser-aller de l'État. Et puis j'ai pensé qu'un homme qui avait malgré tout fait des choses extraordinaires, qui avait compris à une certaine date qu'il n'y avait pas que des défaitistes en France, eh bien, ma foi, on pouvait quand même lui faire confiance. Alors, c'est pour ça que j'ai suivi général, parce que je pensais que qu'on pouvait lui faire confiance, que je pouvais lui faire confiance dans l'avenir des affaires de la France.
Mm-hmm. Oui. Et c'était lui-même surtout en tant qu'homme, ou est-ce que il y avait en lui certaines idées qui vous plaisaient?
Ah oui, certaines idées.
Oui.
Certaines idées, surtout des idées sociales.
Mm-hmm.
Il y a encore malheureusement des patrons rétrogrades ou des gens, à mon avis, qui veulent gagner trop vite leur vie. Alors qu'on a un tas de choses à faire pour éviter le communisme, parce que je suis un anticommunisme acharné en tant qu'idéologie, si vous voulez. Je ne peux pas admettre ça. Et on n'a plus aucune liberté, enfin, c'est le processus du communisme, je ne veux pas en faire le procès, quoi. Et j'ai pensé que les idées du général de Gaulle, en tant qu'association capital-travail, c'était une chose extraordinaire. Et j'essaye de la réaliser chez moi. Alors, ça me passionne et sur le plan social, ça m'intéressait. D'autre part, je n'étais absolument pas d'accord avec les menées colonialistes. Je pensais que tout un chacun, tout un peuple peut vivre par lui-même, peut se débrouiller par lui-même, quitte à faire des alliances avec des pays plus importants pour la vie de chaque jour. Alors, je pensais que des gens, parce qu'ils ont une couleur ou une formation, n'ont pas le droit de faire... comme on dit chez nous, « svelburnou ». Je ne sais pas si c'est une expression très académique, mais enfin... Alors c'est pour ça que moi, l'histoire d'Algérie, ça ne me passionnait pas du tout. Je disais, autant ces gens-là, bon, s'ils veulent être libres, laissez-les libres. Et puis essayons de faire un accord commercial avec eux, comme ça me semblerait normal. Et puis c'est pour ça, au fond, ces deux idées-là, quoi, qui m'ont...
Mm-hmm.
Et puis honnêtement, je dois vous dire que les gouvernements successifs de la 4e République, au point de vue relation avec les nations amies, me faisaient l'effet de petit garçon, toujours à tendre la main et à tendre le dos. Alors ça, c'est peut-être le côté coq du français.
Le côté
coq,
qu'est-ce que cela veut dire?
Qui se redresse, qui ne veut pas courber les chines.
Oui.
Là, on dit toujours le coq français.
Oui.
Alors, c'est peut-être un petit peu ce côté-là.
Oui.
Et puis cocardier aussi.
Oui. Cocardier veut dire ?
Cocardier, c'est-à-dire qu'on est très, très infatué de notre pays et de notre drapeau, en définitive.
Mm-hmm.
Oui. Alors, c'est pour ça que, pour moi, le général de Gaulle représentait, et représente d'ailleurs toujours, ces trois points principaux. Mm-hmm. Une certaine image de la France qui se monte, un certain plan social sur lequel on peut arriver sans bagarre et en évitant le communisme, et puis une certaine liberté accordée au peuple, mm-hmm. aux autres peuples qu'on avait sous notre domination.
Oui. J'aimerais vous poser une seule question au sujet d'Algérie, que j'ai un peu étudiée. Il me semblait qu'à part le problème de la liberté des Algériens, il y avait aussi le problème des Français établis en Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque?
Moi, j'ai pensé à l'époque que si les Français établis en Algérie avaient été plus intelligents, et s'ils avaient voulu vraiment conserver leur droit, puisqu'ils n'avaient pas plus de droit que les Arabes là-bas, mm-hmm. s'ils avaient voulu conserver leur façon de vivre, une certaine façon de vivre, ils auraient très bien pu s'entendre avec une certaine tendance algérienne, qui était d'ailleurs la tendance Ferhat Abbas. Et ils auraient très bien pu faire un État algérien avec Français et Algériens et y rester, et vivre, et bien gagner leur vie aussi, au lieu de faire cette espèce de lutte insensée et ridicule.
Mm-hmm.
Ça, c'est mon point de vue. Je sais pas, je me trompe. L'avenir me dira si je me trompe, mais c'est vraiment mon point de vue.
Il y a tous les points de vue.
Oui. Et quand j'en cause d'ailleurs avec certains amis maintenant qui sont les rapatriés, ils disent eux aussi que s'ils n'avaient pas écouté des extrémistes, certainement que ça aurait pu s'arranger autrement. Mais enfin, c'est un peu le tempérament méditerranéen, vous savez, qui s'emballe, qui s'affole pour un petit rien, et puis on part, puis après on ne veut plus revenir en arrière. C'est peut-être ça le désastre, au fond, de l'Algérie, c'est peut-être l'explication. Les rapatriés le disent d'ailleurs, entre eux, ou quand ils veulent bien parler à cœur ouvert.
Oui. Et puis une question sur ce que vous avez dit au sujet de la politique sociale générale que vous essayez de réaliser ici, vous dites, cette association entre capital et travail. Comment est-ce que vous essayez de réaliser?
Eh bien, j'essaye d'intéresser mon personnel au fruit de son travail. C'est-à-dire que il y a quand même une chose, que dans nos affaires qui sont trop petites en comparaison des énormes combinats industriels où on peut distribuer des actions ou autre chose, j'essaye d'intéresser mon personnel en l'augmentant d'une façon plus substantielle, si vous voulez, de façon à le faire partager directement, partager directement au fond des bénéfices qui existent. Et au lieu de donner ça en fin d'année ou en prime quelconque, c'est... Je donne ça tous les mois. Tous les mois, les payes augmentent au fur et à mesure du travail effectivement rendu.
Et cela a réussi, pensez-vous, à intéresser votre personnel activement à la maison?
Ah oui, parce que s'ils ne travaillent pas, ou s'ils cassent de la marchandise, ou s'ils font des boulettes, c'est donc du bénéfice en moins. C'est donc ce qu'ils auront en moins, eux. Vous comprenez?
Oui.
C'est... Alors, ils sont obligés, enfin, évidemment, dire ça les force à bien faire.
Ah oui,
ça les force à bien faire.
Je crois que... N'est-ce pas qu'il y a une législation qui dit qu'au-dessus d'une certaine dimension, je crois que c'est 100 ouvriers, que c'est obligatoire d'intéresser les travailleurs?
Ça n'est pas obligatoire.
Non,
il n'y a pas. La loi n'a jamais été, au fond, mise en application. Il y a eu une loi, mais il n'y a pas de décret d'application.
Ah oui.
Parce que, vous comprenez, ça n'est pas tellement possible. À l'heure actuelle, nous avons trop d'entreprises qui ont 100, 150 personnes, mais qui sont déficitaires. À ce moment-là, ça reviendrait à dire qu'on est obligé de pénaliser l'ouvrier si l'entreprise marche mal. Ce n'est pas très valable.
Ah oui.
Ce n'est pas très valable. Oui. Chaque métier, chaque fabrication, chaque affaire a évidemment ses problèmes bien personnels. Alors, je crois que c'est davantage... Il faut que les patrons, à mon avis, se mettent dans la tête que maintenant, il faut qu'ils trouvent des formules nouvelles pour intéresser leur personnel, ou peut-être pas nouvelles, ou peut-être uniquement ce que je fais, c'est-à-dire les intéresser au fur et à mesure des réalisations. Et si une affaire, malheureusement, vient à ne plus gagner sa vie, bien, il y a peut-être intérêt à repenser complètement cette affaire-là. À ne plus dire « je veux rester, je veux tenir comme je suis », c'est fini ça. L'évolution, ça pousse trop vite derrière. Vous essayez de l'avancer un petit peu.
Eh bien, retournons à la politique. Comment est-ce que vous avez débuté vous-même en politique? Qu'est-ce que vous avez fait exactement?
J'ai débuté, d'ailleurs donc par m'inscrire à l'UNR à cette époque-là, et... à faire ce que j'appellerais les commissions. C'est-à-dire porter des enveloppes pour les réunions, faire de l'affichage, de la distribution de tracts, de la distribution de publicité électorale. C'est-à-dire vraiment dans la rue, si vous voulez. Et puis après, petit à petit, je suis devenu responsable d'un canton. Et puis, d'une circonscription électorale. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand j'étais responsable d'un canton en ville, il y a eu des élections partielles et je me suis présenté, enfin, mes amis m'ont présenté, pour défendre les couleurs de l'UNR contre un conseiller général sortant. Et ma foi, ça avait donné d'assez bons résultats puisque je n'avais été battu que de 75 voix. Sur 8 ou 10 000 votants. Alors donc, c'était pas mauvais, si vous voulez. C'était assez valable.
C'était des élections pour l'Assemblée nationale?
Non, pour le département.
Pour le département.
Pour le département. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle les conseillers généraux.
Oui.
C'est ça. Et puis, si vous voulez, cette élection m'avait lancé sur le plan politique. Un ballon d'essai. On lance un ballon, ça part, ça arrive bien. Bon, ben, ça arrive bien. Alors, ça m'avait lancé sur le plan politique. Et puis petit à petit, mes amis m'ont confié au fur et à mesure des responsabilités plus importantes. Et en 1961, je crois, il me semble, Au cours d'une élection législative, j'étais suppléant d'un député, parce que vous savez qu'en France, il y a un député et son suppléant qui font campagne ensemble, et que si l'élection marche, le député est élu, et le suppléant, évidemment, reste ce qu'il est. Mais si le député vient à décéder, pour une raison ou pour une autre, c'est le suppléant qui le remplace automatiquement. Alors donc, j'étais suppléant d'un député, que je suis d'ailleurs toujours, depuis 61. Et alors, ce député était lui-même secrétaire fédéral de tout le Loiret, et à ce moment-là, j'ai pris sa place, si vous voulez, en tant que secrétaire fédéral du Loiret. Mm-hmm. Et puis, alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis, il y a eu les élections municipales, où je suis donc passé sur la liste municipale du maire actuel, mm-hmm. avec un ensemble de groupes.
Mm-hmm. Et avant de venir à cela, est-ce que vous pourriez me dire, me parler un peu de ce que vous faites en tant que secrétaire fédéral, donc.
En tant que secrétaire fédéral, mon rôle consiste à d'abord organiser des réunions dans chaque canton, chaque commune qui a besoin d'une certaine documentation, à faire des articles sur tel ou tel problème intéressant le département, évidemment dans le sens gouvernemental, cela va sans dire, à représenter le parti politique dans toutes les instances départementales, c'est-à-dire aussi bien la préfecture que dans toutes les réunions, si vous voulez, quelles qu'elles soient, même quand l'opposition fait une réunion, venir contredire, si vous voulez. Et puis, le gros morceau, c'est-à-dire, c'est préparer les élections, former les hommes, trouver les hommes, les former. Essayer d'arranger toutes les petites opérations qui se font à droite et à gauche pour ces élections. Ça, c'est un travail de tous les jours. Mm-hmm. On peut très bien me téléphoner ce soir ou demain en me disant, tiens, dans tel pays, il y a un problème, un maire qui veut de sa démission ou un conseil municipal qui n'est plus d'accord sur un tel problème avec la préfecture et que le député. Ben, mon rôle, c'est d'aller essayer d'arranger l'affaire, d'abord. Et puis après, ça ne s'arrange pas de retrouver une nouvelle équipe pour reprendre.
Donc, il y a des liens assez étroits entre l'organisation départementale de l'UDR et les conseils, c'est-à-dire conseil général, conseil municipal en place.
Ah oui. Il n'arrive pas de semaine sans qu'un maire ou un conseiller municipal ou un conseiller général vienne me voir pour me dire, tiens, bien, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce que tu ferais pour cette idée-là, ou qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Alors là, c'est en causant ensemble qu'on arrive à décanter les problèmes.
Est-ce qu'actuellement, vous avez un travail de préparation d'une élection quelconque ?
Ah oui. Les élections municipales de l'année prochaine, de mars 1971. Mm-hmm. Okay. Ça, c'est une autre question, ça. C'est pas être facile.
Vous pouvez m'en parler un peu, ou est-ce que c'est trop indiscret à ce moment-ci ?
Oui. Je ne peux pas vous en parler en ce moment, parce que nous en sommes à la période exploratoire. Il y a beaucoup d'appétit. Il y a certaines controverses déjà parmi les membres du conseil existant. À Orléans, je dis bien à Orléans. Dans les autres communes, c'est d'ailleurs pareil, ça. Mm-hmm. Ça grenouille partout.
Oui.
Et c'est pas facile de vous donner quelque chose de précis en ce moment. On ne sait pas comment ça va se passer en définitive. Parce que c'est pareil, il y a les éléments âgés à essayer de mettre sur la touche, à leur faire comprendre que, ma foi, à partir de 65 ans, 70 ans, il ferait peut-être mieux de laisser la place à des jeunes. Et ça n'est pas facile. C'est même le plus dur.
Ah oui, je comprends. Donc, les rapport entre l'organisation départementale et l'organisation centrale à Paris. Est-ce que vous avez une certaine responsabilité vis-à-vis le bureau central de l'UDR ?
Oui, le comité central.
Est-ce que vous avez des devoirs, le comité central ? Est-ce que vous avez des devoirs, des responsabilités ?
Évidemment, quand le siège donne une circulaire générale, une application générale, il me l'envoie pour mise en application dans ce département. Mm-hmm. Maintenant, je dois dire que nous sommes relativement très libres. Si nous jugeons que cette circulaire n'est pas applicable, que ces données politiques ne sont pas applicables, ou qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire dans ce département pour ne pas envenimer ou détériorer certaines circonstances. Alors je suis entièrement libre de faire ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas une obligation, je ne suis pas un fonctionnaire payé par le parti. D'ailleurs, nous ne sommes pas payés. Non. Absolument pas.
Non. Donc vous avez une certaine initiative aussi.
Ah oui, complète alors. Oui. Pour tout ce qui est du département, au point de vue élection, parce que je suis nommé par Paris. Je suis nommé par le siège, qui peut, du jour au lendemain, si je ne fais pas le travail, me basculer, me balancer. Alors, étant donné que je suis nommé, si vous voulez, c'est un petit peu comme un préfet. S'il fait bien son travail, il n'a pas d'histoire par le gouvernement. S'il le fait mal, il est renvoyé. C'est exactement le même genre, mais sur le plan politique.
Et votre influence ou votre... Oui, je pourrais dire votre influence sur le comité central. Est-ce que vous avez une initiative à prendre?
Si nous voyons des problèmes spécifiques à leur donner, oui, on peut leur donner nos propres idées. Ils en tiennent compte ou pas compte, mais enfin, on peut leur donner nos idées. Et oui. Il arrive parfois que certaines idées sont retenues.
Oui. Et vous pouvez proposer une politique, par exemple.
Ouais. Oui, on peut tout proposer.
Oui.
On ne nous dira jamais rien. Oui. Si le comité central trouve que ce n'est pas valable, bon, ben c'est fini, on n'en parle plus. Si c'est valable, alors on en discute.
Quelle manière est-ce que la politique, en général, est élaborée?
Elle est d'abord élaborée au comité central, au parti, le comité central qui comprend une centaine de membres, dont les ministres, une partie des députés et une partie de secrétaires fédéraux, qui sont élus par les assises nationales du mouvement sur l'ensemble de la France. Alors c'est le comité central qui est absolument le seul responsable des décisions politiques.
Et est-ce que les objectifs du mouvement ont changé depuis le départ du général?
C'est-à-dire que, non, ils n'ont pas tellement changé. Il y a eu des aménagements de moins de rigueur sur certains hommes, c'est tout. Parce qu'au fond, la politique gouvernementale est pratiquement restée la même. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut peut-être plus discuter. Je ne dis pas que ça réussisse, mais enfin, on peut davantage discuter certaines opérations. Tandis que, du temps du général, quand il avait dit ça, c'était ça, il n'y avait pas à y revenir.
Quelle méthode est-ce que vous préférez? L'autoritarisme du général ou la discussion?
Bien, je trouve que l'autoritarisme avait du bon, quand même. Il y avait du bon parce qu'on savait où on allait, il n'y avait pas à y revenir une fois que... Ou alors à ce moment-là, si on n'était pas d'accord, il n'y avait qu'à partir. Si on était d'accord, on marche. Tandis que là, à l'heure actuelle, j'ai un peu l'impression que tout le monde cause et personne ne fait rien. Alors moi, personnellement, ça ne m'emballe pas. D'ailleurs, je ne me gêne pas pour le dire aussi. Même en haut lieu.
Le chiffre d'adhérence du mouvement en ce qui concerne le Loiret, est-ce que le chiffre des adhérents est en augmentation ou en diminution?
C'est en augmentation très nette.
Oui, oui. Depuis
depuis l'arrivée de Pompidou au pouvoir, qui a permis, je vous dis, une certaine... comment dirais-je, c'est pas alliance, non, c'est pas ça, c'est un retour de personnes qui se sentaient écrasées par le général et qui ont pensé qu'avec Pompidou, les choses allaient plus gentiment s'abadouer, plus tranquillement s'abadouer, qui sont venus adhérer chez nous. Mais on remarque davantage des légions parmi les personnalités plutôt que parmi l'ensemble du peuple, quoi.
Comment est-ce qu'on cherche des adhérents?
Bien, ça, ce sont nos amis, vous savez. Oui. Nos responsables de canton, de commune, qui, en causant à droite et à gauche, avec d'autres personnes ou d'autres amis, nous amènent les adhérents, font leur inscription. Et... Oui. C'est uniquement comme ça, d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des frais d'inscription?
Ah oui, il y a une cotisation.
Oui. Cotisation.
Une cotisation, oui.
Vous pourriez me dire le montant?
15 francs.
15 francs par an?
Par an.
Oui. Et à quoi est-ce que cela donne droit ou qu'est-ce qu'on reçoit en retour?
Un journal, mm-hmm. Un journal La Nation. Mm-hmm. Et puis ça donne droit évidemment de participer aux assemblées générales. Mm-hmm. Ça met aussi le pied sur l'étrier. Nous avons beaucoup de personnes qui sont adhérentes chez nous, qui sont plus ou moins capables d'être conseillers municipaux ou des choses comme ça. Et ça leur met quand même un petit pied, quoi.
Bien, nous pourrions peut-être passer à votre rôle maintenant comme conseiller municipal, qui me semble être assez lié à votre rôle en tant qu'homme politique.
C'est très lié.
Très lié.
C'est très lié.
À quel moment est-ce que vous vous êtes intéressé à la vie municipale?
Bien, je vous dis, je me suis toujours intéressé. Mm-hmm. C'est un petit peu comme la vie politique. Je me suis toujours intéressé. Et il n'y a que, si vous voulez, que depuis 61, je crois. Non, plus tard que ça. 65, je crois, aux élections municipales, la dernière fois. Les 65. Depuis 65, je suis conseiller municipal. Eh bien, si vous voulez, ça a concrétisé un peu ce que je recherchais. Et ça m'a permis de mieux suivre et de mieux débattre des options générales de la ville. De mieux comprendre les problèmes, parce que quand on n'est pas vraiment dans le coup, on se pose des questions. Pourquoi telle ou telle option? Pourquoi faire ceci? Alors qu'il y a peut-être cela à faire. Mais on se rend compte, quand on est vraiment dans l'Assemblée municipale, que les décisions que nous prenons, que les discussions que nous avons sont des choses sérieuses. On n'est pas toujours du même avis au départ, on en cause, et on arrive forcément à se mettre d'accord. Mais avec une totale franchise et liberté d'esprit. Alors c'est intéressant. Et évidemment, le commun du mortel ne peut pas juger s'il n'a pas été conseiller municipal dans une grande ville, surtout pas dans les petites villes, mais dans une grande ville, de l'importance du conseil municipal sur les options.
Vous avez dit que vous avez été élu sur la liste électorale de M. Secrétin.
Oui.
Est-ce que vous pourriez expliquer très brièvement ce système de liste électorale?
Oui, alors la liste... À Orléans, il y a 37 conseillers municipaux. Et il y a eu une alliance entre M. Secrétin, le maire actuel, M. Duvillard, le député, et qui, à cette époque-là, était le seul représentant du gaullisme dans le département, les indépendants. L'indépendance est une frange qui suit M. Giscard d'Estaing, si vous voulez. Et puis, à cette époque-là, le MRP. Le MRP, c'était M. Schumann, c'était M. Pimelin, c'est tout, c'était les principaux leaders. Alors il y avait une entente entre ces quatre groupements qui ont fait une liste. Alors chaque groupement désignant ses candidats sur la liste. C'est-à-dire que, mettons, M. Secrétin avait droit à 4 de ses amis, les indépendants avaient droit à 7, nous avions droit à 14, les MRP avaient droit à 10 ou 12, enfin, de toute façon, à faire les 37. Alors, chaque parti amenait les hommes qu'il voulait bien amener pour mettre sur la liste. Et là, il n'y avait pas de discussion. Alors, donc, la liste étant élue, pensant au suffrage universel étant élue, alors après, il n'y a plus qu'à un travail d'équipe à faire.
Donc, est-ce qu'il y avait d'autres listes?
Ah oui, vous aviez une liste socialiste, une liste communiste, c'est tout, il y en avait 3. Mm-hmm. Une liste socialiste, une liste communiste et la nôtre.
Mm-hmm. Et comme cela, donc, il n'y a pas de communiste ni de socialiste dans
non.
le conseil?
Non, pas du tout.
La liste a été élue?
Complète.
Complète.
Ah oui, on ne vote que pour la liste, mm-hmm. On ne vote pas pour les noms. C'est la liste complète qui passe ou pas. Mm-hmm. D'ailleurs, en 65, nous avons été élus au premier tour avec 55% des suffrages de la ville.
Donc, une ville assez stable, donc.
C'est très stable, oui. Orléans est une ville très stable.
Mm-hmm. Vous êtes resté conseiller ou est-ce que vous avez d'autres responsabilités maintenant?
Oui, alors, je suis passé adjoint au maire depuis le décès d'un de nos amis qui était adjoint et qu'il a fallu remplacer. Et il y a donc maintenant 6 mois où je suis adjoint. Mm-hmm. Le 9e adjoint, il y a le dernier.
Ah oui, oui, oui.
Parce qu'on rentre, celui qui était décédé était le 4e adjoint, mais on rentre quand même le dernier, ce qui est normal d'ailleurs.
Oui.
On ne peut pas reprendre la place tout de suite du 4e.
Comment est-ce qu'on devient adjoint?
Eh bien, c'est le conseil municipal qui élit. sur proposition. Alors, comme il était de coutume qu'un adjoint décédé, c'était automatiquement quelqu'un de son groupe qui le remplaçait. Alors, le groupe m'a proposé comme candidat et le conseil municipal m'a élu.
Et la prochaine fois, après les élections de 71, est-ce qu'il y aura une nouvelle élection d'adjoint?
Absolument, maire et adjoint.
Oui.
On recommence après les élections. Il y a les 37 conseillers municipaux qui élisent d'abord leur maire et ensuite leurs adjoints.
Oui. Est-ce qu'il y a quand même une tendance à élire à nouveau les adjoints?
Ah oui, quand les listes s'entendent, oui.
Oui.
Si c'était par exemple la même formation politique qui repassait, la même formation qui est groupée derrière la même liste, il n'y aurait certainement pas beaucoup de changements au point de vue personnalité d'adjoint.
En quoi consiste votre rôle comme adjoint? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, le rôle d'adjoint, les adjoints ont une délégation du maire pour tous les actes officiels, c'est-à-dire aussi bien les mariages que les signatures des papiers officiels de la mairie. Et en plus, nous avons une délégation permanente qui nous donne certains droits de discussion ou de regard directement sur les services municipaux. C'est-à-dire que là, sans que le maire ait à voir un problème ou des problèmes, nous avons certains secteurs qui sont réservés et qui sont entièrement sous notre responsabilité.
Et vous, personnellement, quel est votre secteur?
Mon secteur, c'est la fonction commerciale à Orléans, puisqu'au fond, c'est ce qui m'intéresse le plus. Les halles, les marchés, tout ce qui intéresse les rapports des commerçants avec la municipalité. Et il y en a énormément, ça va de la circulation jusqu'à un tas de des emplacements de stands, ou la foire exposition, ou les manifestations commerciales, tout ça repasse par ce canal, si vous voulez.
Vous avez un certain pouvoir délégué.
Ah oui,
oui,
je veux prendre des décisions sur ce secteur-là sans en référer au maire, à moins que ce soit vraiment quelque chose. Si on décidait, s'il fallait décider, par exemple, de mettre les rues d'Orléans sans circulation pendant 24 heures, comme je l'ai déjà fait l'année dernière. Mais ça, c'est en accord avec le... ça, à ce moment-là, je vais voir le maire, on en discute.
Oui.
Et même au conseil d'administration.
Oui. Vous pouvez me raconter cela, l'arrêt de la circulation complète pendant 24 heures, pourquoi?
Pendant une après-midi.
Oui.
C'était l'année dernière, au cours d'une manifestation commerciale qu'on appelle les 15 jours d'Orléans, d'ailleurs dont j'en suis le président, et j'avais pensé qu'il serait intéressant de faire une expérience, c'est-à-dire de supprimer la circulation automobile dans le centre-ville et de laisser aux piétons la liberté de circuler partout. Alors évidemment, ça a amené beaucoup de discussions, vous pensez que ça n'était pas très simple. Mais enfin, le conseil municipal et le maire ont donné leur accord et nous avons fait cette expérience. Et puis évidemment, comme à chaque expérience nouvelle, ça a été très controversé, il y a eu beaucoup de discussions, mais dans l'ensemble, c'était très agréable. Et c'est surtout cette impression, on avait fixé l'heure de départ de l'expérience à 15h, de 15h à 19h. À 15h, toutes les voitures qui étaient rentrées en ville pouvaient stationner où elles voulaient, n'importe où. Et après 15 heures, elles n'avaient plus le droit de circuler, sauf les ambulances, enfin, etc. Quelques voitures obligées, quoi. Médecins, ambulances, taxis, bien. Et cette impression extraordinaire, à 15 heures, quand la police a arrêté la circulation sur les axes, un énorme silence dans la ville. Ça a été vraiment extraordinaire. Et puis, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, les gens restaient encore sur les trottoirs. Puis au bout d'une demi-heure, alors, tout le monde s'est mis dans le milieu de la rue, s'est promené partout. Ça a été assez sympathique d'ailleurs. Mais évidemment, du côté commerçant, disons que j'ai eu 55% d'accord, mais 45% de désaccord. Certains quartiers trouvant qu'ils avaient été désavantagés par d'autres parce que les gens ne pouvaient plus rentrer en voiture. Enfin, c'est une expérience qui était intéressante. Et qu'on pourrait retenter, mais dans un circuit plus petit, dans les vieilles rues d'Orléans, dans les vieux quartiers, autour de la place du Châtelet, si vous connaissez, par
oui.
exemple, dans
oui,
tout
oui.
ce secteur-là qui est très commerçant,
oui.
ça pourrait être tenté par là.
Oui.
Mais pas tout de suite.
Non.
Il faut attendre que les passions s'apaisent un peu.
ah oui, je vois, oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples des affaires de la ville qui vous ont intéressé dans les années récentes?
Oui, alors, vous savez que Orléans, comme la plupart des villes anciennes, souffre d'un manque chronique de parking de voitures. Et nous avons à Orléans la place du Châtelet que vous connaissez, et à côté, une grande place, enfin maintenant, une espèce d'énorme camp, si vous voulez, où les maisons ont été détruites. Et déjà depuis 3 ou 4 ans, plus que ça, depuis le début, j'étais au conseil municipal, je cherchais par tous les moyens à essayer de faire des parkings dans ce centre-ville. Et puis, à force de discussions, de persuasions, de, comment dirais-je, même de prise de bouche, avec un tas de collègues, avec même monsieur le maire, avec la municipalité, avec mes collègues, on a pu réussir à faire cet ensemble de parkings, enfin à décider cet ensemble de parkings. C'est-à-dire que maintenant, nous allons monter un parking de 800 places à la Charpenterie. Nous allons donc déplacer aussi une certaine partie de commerçants sur ce quartier et nous allons refaire le Châtelet complètement avec d'autres parkings pour 1000 places. Alors ça, si vous voulez, c'était mon grand projet et surtout ma première réussite au point de vue ville, quoi. Mais ça n'est pas sans heurts et sans pleurs aussi,
oui.
de part et d'autre.
Oui.
Parce que déplacer des commerçants d'un côté et les mettre de l'autre, faire admettre par la ville qu'elle peut aliéner un terrain au profit de commerçants, ça a été tout un tas de discussions et j'ai, si vous voulez, servi d'intermédiaire et de catalyseur autour de la chambre de commerce, des commerçants et de la ville. Alors c'était pénible mais passionnant.
Oui, oui, oui.
Enfin, maintenant, ça y est, c'est, le principe est acquis. Le conseil municipal a voté le budget, même de l'opération, il y a un mois maintenant.
Et le budget de cette opération sera financé entièrement par la ville ou
Une
est-ce
partie.
Qu'il y aura...
Alors on essaye en ce moment de trouver des financements d'État.
Oui.
Étant donné que nous déplaçons une partie des maraîchers. Vous savez, il y a une vente des maraîchers le matin, je ne sais pas si vous connaissez, une bonne heure, ça se passe entre 4h et 8h le matin sur les Halles. Alors, étant donné que ça intéresse l'agriculture et qu'on les déplace, alors on essaye d'avoir une subvention aussi importante que possible du côté agriculture ou ministère de l'Intérieur.
Mm-hmm. Ah,
ça, maintenant, il faut trouver le financement puis essayer de trouver des subventions à droite et à gauche. Quoi.
Quand est-ce que vous espérez que les travaux commenceront?
Si tout va bien, d'ici 2 mois.
2 mois?
Ah oui, tout est prêt, tous les plans sont prêts, il n'y a plus qu'à la creuser.
Mm-hmm. Ah oui.
Tout est prêt.
Oui. Il me semble que sur ce vieux terrain qui a été détruit, il y a des fouilles archéologiques aussi.
Ça amuse un peu les...
Ah oui?
Oh non, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux.
Non, non, non. Vous savez, si on voulait fouiller Orléans, il y a des vestiges partout. Alors, je pense pas que... Je me trompe peut-être, mais s'il y avait un archéologue là, il le dirait. Vous trompez sûrement. Je ne pense pas que c'est un intérêt vraiment extraordinaire de conserver cette partie parce qu'il risquait d'y avoir quelques vestiges anciens.
Mm-hmm.
À ce moment-là, le prochain trou qu'on fera à côté, il y en aura aussi. Et puis le prochain à droite, ah non, je ne peux rien faire.
Ah oui. Est-ce que vous pourriez peut-être me dire maintenant s'il y a de grands problèmes auxquels la ville a dû faire face depuis que vous êtes conseiller? Vous avez parlé d'une grande réalisation qui va arriver, qui vous a concerné. Est-ce qu'il y a eu vraiment de grands problèmes?
Il y a eu un problème important qui était un problème... il y a eu les Floralies à Orléans.
Mm-hmm.
C'est un problème qui avait été décidé avant que je sois au conseil municipal et j'ai toujours été très opposé aux Floralies. Parce que financièrement, ça n'était pas viable. Et il s'avère que j'ai eu parfaitement raison. Et j'étais le seul conseiller municipal contre les Floralies. Alors, évidemment, ça a pendant un certain temps jeté un froid, même parmi mes amis, parce que j'étais contre cette opération. Enfin, ça, c'est du passé, on ne va pas revenir dessus. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais évidemment, maintenant, le grand problème, si vous voulez, c'est que la grande étude qui est menée à l'heure actuelle, c'est Orléans 85, Orléans 2000. C'est le livre blanc d'Orléans, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être déjà. Alors ça, c'est évidemment, c'est un problème qui me passionne. Quels sont les objectifs à voir, quelle est l'orientation à donner. Il y a pas mal de commissions qui travaillent dessus. Pour une fois, que le gouvernement, ou du moins le ministère, nous permet aux Orléanais, ou du moins à une communauté, de travailler sur un projet d'État, c'est une chose passionnante. Alors évidemment, aussitôt que les options seront prises, il faudra marcher. Mais quelle option ? Vous savez, chacun ses idées là-dessus. Moi, je pense que... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez... Vous connaissez le livre blanc, non ?
Non.
Non, pas du tout, non. Parce que c'est la grande option d'Orléans, en ce moment, qui se décide. Alors, je pense qu'une option comme celle que nous devons faire doit d'abord s'étaler sur les axes de communication existants. Ne pas essayer d'en créer de nouveaux, qui serait, à mon avis, une erreur financière. Essayer de s'appuyer sur l'implantation d'Orléans dans le centre de la France. Ne pas vouloir en faire une ville industrielle, qui serait aussi, sur le plan financier, amener des matériaux, des combinats. C'est pas possible. Donc, ben, c'est possible, mais avec un financement important. Donc, je pense que l'option que nous devrions prendre pour Orléans, c'est l'option d'Orléans capitale de distribution de commerce ou de fabrication. Puisqu'Orléans est un centre, les usines sont réparties dans tous les coins de France. Il faudrait arriver à créer autour d'Orléans une énorme zone d'éclatement des produits industriels. Tout pourrait converger, si vous voulez, en fabrication et se distribuer plus facilement sur toute la France. Et ça, c'est possible. C'est possible d'après... À l'heure actuelle, le projet des autoroutes, le projet autoroute Paris-Bordeaux, qui va passer à côté d'Orléans, il y a un projet qui, à mon avis, aurait dû être prioritaire, c'est le projet Nantes-Orléans-Lyon, la Suisse, ou alors en bifurquant sur cette route-là, sur Strasbourg et l'Italie, enfin Lyon-l'Italie, et on pouvait vraiment en faire une espèce de capitale de distribution. Alors ça, c'est mon avis. Est-ce que je serai suivi dans les conclusions ? Je n'en sais rien. Mais on a toutes les chances de le réaliser. Alors, on a un aérodrome militaire qui est à côté d'Orléans, mais qui peut être agrandi énormément pour en faire un aérodrome civil aussi très important. On va bientôt avoir l'aérotrain, Paris-Orléans, en une demi-heure. L'autoroute. La Loire, si pour une raison ou pour une autre, il fallait la rendre navigable, ça n'est pas compliqué avec les techniques actuelles. Je crois qu'on est bien placé dans ce centre de la France. Et c'est pour ça que je défendrai cette option, si vous voulez, de promotion commerciale Orléans.
Ce livre blanc dont vous avez parlé, c'est écrit déjà, en fait, c'est
quelque chose. Ah oui, les options.
Les options.
Il y a six hypothèses. Six hypothèses possibles où, le ministère de l'équipement, enfin les techniciens ou les technocrates, si vous voulez, de l'équipement, ont indiqué des hypothèses possibles.
Ah oui, c'est quelque chose qui a été fait donc au ministère.
Au ministère, c'est oui. Ça, par des gens de l'équipement.
Oui, et qui vous l'ont envoyé pour que vous discutiez de cela.
Et qui ont créé des commissions pour en discuter.
Ah oui, l'initiative a été prise par le ministère.
Par le ministère, c'est ça, oui. Par le ministère de l'aménagement du territoire.
Et à vous maintenant de choisir, ou à vous maintenant de participer au choix.
De participer à un choix, dire que notre choix sera écouté en haut lieu, ça... C'est autre chose. Mais en principe, on nous demande notre avis. Alors, essayons de le donner en appuyant justement nos données sur quelque chose de réel. Pour avoir forcément des idées. J'ai des amis qui m'ont dit, mais il faudrait avoir 2 ou 3 grandes usines ou combinats industriels. Personnellement, je trouve que c'est pas rentable.
Est-ce que cela se passe... Ah non, le sixième plan, c'est à beaucoup plus court terme.
Ah oui, c'est du court terme. Le sixième plan, c'est du court terme.
Oui.
C'est la fabrication des autoroutes, le sixième plan, au fond, des voies de liaison. Mm-hmm. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appellera, Orléans 85-2000. Qui peut,
c'est très intéressant.
Qui peut amener un essor ou un arrêt de la progression d'Orléans à l'heure actuelle, suivant les options prises.
Dans ce cas-là, il semble que, comme vous avez dit, l'initiative est du côté du ministère. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où l'initiative est plutôt du côté du conseil municipal? Par exemple, dans l'enseignement ou...
Dans l'enseignement, vous savez, on n'a pas beaucoup d'initiatives, c'est l'éducation nationale. Dire que le conseil municipal a eu l'initiative de la source, d'Orléans-la-Source, puisqu'il a réussi à acheter des terrains énormes, qu'il a mis à la disposition de l'université, qu'il a mis à disposition des offices d'HLM ou des promoteurs pour construire des maisons. Évidemment, ça, c'est une initiative municipale. La source, c'est une création municipale. Et c'est une très bonne chose. C'est la municipalité de M. Secrétin qui a mis ça en place en 1959 ou 60, je crois. C'était déjà une première évolution d'Orléans. Orléans a commencé, si vous voulez, à bouger sérieusement à partir de ce démarrage de la source. Qui nous a amené l'université, d'ailleurs.
Et c'est votre décision, c'est le conseil municipal, avec M. Secrétin, donc, qui a effectivement amené une université.
Ah oui, absolument, absolument. Absolument. Avec toutes les bénédictions de Paris, évidemment. Parce que même un bon vœu pieux émis par un conseil municipal, si l'administration centrale ne veut pas, il n'y a rien à faire. Alors là, tout s'y prêtait, l'emplacement, tout était vierge de place, on pouvait faire ce que l'on voulait. Et puis du terrain acheté en bonne condition, donc ça pouvait être valable.
L'école là-bas s'appelle une cité scolaire.
Oui, campus universitaire.
Oui, campus universitaire, mais à côté il y a une cité scolaire, c'est-à-dire une série d'écoles,
un groupe
d'écoles niveau secondaire.
Oui.
Est-ce que ça aurait été le conseil municipal qui aurait décidé cela aussi, ou est-ce que ça rentrerait dans le...
Toute l'implantation, le lycée qui est là-bas, c'est le lycée de la source, qu'on appelle le lycée de jeunes filles de la source.
Oui.
C'est une décision municipale. Parce qu'on pouvait très bien on aurait très bien pu imaginer de le construire dans Orléans.
Oui.
Alors on a préféré, puisqu'on avait du terrain, puis ma foi, une certaine surface, le construire là-bas. Ça, c'est une décision municipale. C'est-à-dire que nous mettons le terrain à la disposition du ministère pour construire. En disant qu'on préfère construire là-bas qu'ailleurs.
J'aimerais revenir pour les dernières questions un peu plus directement à la politique, en vous posant quelques questions un peu plus du général, si vous permettez, maintenant. En revenant sur le mouvement qu'on appelait gaulliste et qu'on appelle maintenant l'UDR, ce qui nous intéresse, nous, en Angleterre, qui avons beaucoup moins de changements politiques que chez vous en France, ce serait de savoir pourquoi le nom de ce mouvement a si souvent changé depuis le début.
C'est un petit peu le propre des partis politiques de France.
Oui.
On cherche des noms. On s'est appelé l'UNR pendant longtemps. Après, on s'est appelé l'UDR. L'Union pour la Nouvelle République, c'était notre premier nom. C'était valable tant que la République était nouvelle, la 5e République. C'était la République tout court. C'était plus la Nouvelle, c'était la République. Alors, l'Union des démocrates et des républicains, ma foi, pourquoi pas?
Cela ne représente pas donc un changement de tendance?
Absolument pas.
Non.
Ah non, absolument pas. Non, l'équipe dirigeante est toujours l'équipe dirigeante, avec quelques jeunes qui montent, mais enfin, et quelques vieux qui s'effacent. Mais, ah non, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de bouleversement majeur. Il y a quelques noms qui se promènent comme ça, mais enfin, c'est pas catastrophique.
Pour caractériser le mouvement, sur la scène politique, pourrait-on dire. Comment est-ce que vous, vous décririez de mouvement?
C'est-à-dire gauche, droite, centre, non quoi?
Ou
social ou quoi?
Oui.
Ou...
oui, comment présenter le mouvement et ses idées?
Si vous voulez, c'est pas très facile à expliquer.
Qu'est-ce qui fait l'unité du mouvement?
L'unité du mouvement, c'est d'abord, on est d'abord avant tout des Français 100%. Ça, c'est une chose qui compte. Deuxièmement, on est tous maintenant anticolonialistes, alors qu'il y a eu à un moment une scission du temps de Soustelle. Il y a eu une légère scission. On est pour la paix, alors là, par tous les moyens. Même des fois les compromissions les plus étranges. Ça, la paix, c'est... Parce que tous les... Enfin, les anciens gaullistes sont tous plus ou moins des gens qui ont fait beaucoup de guerres, qui ont subi beaucoup de tribulations difficiles. Il y a eu des déportés, il y a eu quand même pas mal de fusillés du côté gaulliste. Alors, on a gardé cette espèce d'amour de la paix par tous les moyens. Alors ça, c'était... Et puis alors, malgré tout, il y a quand même cette énorme poussée sociale. 70-75% des adhérents sont des ouvriers, contrairement à beaucoup de partis politiques français. Je ne dis pas du Parti communiste, évidemment, mais contrairement à beaucoup de partis communistes, à beaucoup de partis. Et nous ne sommes pas un parti de fonction, c'est-à-dire que, comme le PSU, il n'y a que des fonctionnaires ou des professeurs. Bon, dans le centre démocrate, vous n'avez que des... qu'une certaine tendance du clergé, que des gens qui sont plus ou moins catholiques, pratiquants, suivant certaines idées nouvelles du clergé. Il n'y a que de ça dans le centre démocrate. Chez nous, vous avez de tout. Vous avez des Français à part entière qui veulent rester Français et puis qui ont un amour immodéré de la paix. Mm-hmm.
Oui.
C'est ça le parti au fond.
Oui. Et est-ce qu'on croit à autre chose à part la paix? Comment est-ce qu'on crée la politique du parti? Selon quelles idées, selon quelles options?
Je ne suis pas très bien là. Je pense que vous voulez dire...
Je veux dire que, oui, croire en la paix, être français, oui, ce sont des caractéristiques, mais selon quelles idées est-ce qu'on crée la politique de tous les jours? C'est-à-dire les options à prendre, les décisions à prendre.
Sur le plan extérieur, vous voulez dire alors, ou sur le plan intérieur?
Sur le plan intérieur.
Ben, sur le plan intérieur, c'est par la recherche, si vous voulez, sociale. Par la recherche du social, tous les jours, essayer de promouvoir des idées sociales. Ne serait-ce qu'en suivant ou qu'en aménageant la grande idée force du général de Gaulle, qui était le capital travail. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément valable pour tout le monde, donc il faut trouver des compromis. Alors au fond, c'est le travail de chaque jour de trouver des compromis pour que l'idée sociale pénètre de plus en plus certaines couches et certains milieux. Et que tout ça se fasse sans trop de heurts, sans trop de grincements ou sans trop de contestations. Alors je crois que c'est un travail de tous les jours. On ne peut pas dire que c'est une idée force. L'idée force, c'est le social. C'est l'association du capital et du travail par des moyens à trouver. Mais ça, c'est de longue haleine. Ça ne peut pas, on ne peut pas trancher une opération comme ça en disant « tout le monde va faire ceci ». D'abord, ce n'est pas dans l'état d'esprit des Français. Nous sommes trop individualistes.
Nous avons parlé de droite et de gauche. Qu'est-ce que droite et gauche signifient pour vous?
Rien du tout.
Non?
Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche? Moi, je veux bien, on dit que la gauche, c'est les communistes. Moi, je dirais non. Il y a des communistes qui ont un régime dans la tête, quoi, qui sont pour une socialisation de tout. Bon, ben, c'est une idée. C'est aussi une idée, comme le capital travail en étude. La droite. Bon, ben, la droite, qu'est-ce que c'est la droite? D'après ce qu'on en dit, ce sont des gens qui veulent rester pour les privilèges. Bon, ben, pourquoi la droite? Alors, il y a des gens pour les privilèges, il y a des gens pour un socialisme unitaire. Bon, et puis il y a les autres. Alors au fond, moi, s'il y a une droite et il y a une gauche, je suis dans le centre. Il y a tous les autres, il y a l'énorme majorité des autres. Alors suivez, moi je... Et puis vous savez, cette histoire de droite et cette histoire de gauche, hein, ça... J'en reviendrai presque à vous dire ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est une histoire de journalisme.
Oui. Et ça a été toujours comme cela, des histoires de journalistes. Ben ou est-ce que ça voulait dire autre chose dans le temps?
Oui, on disait il est de la gauche parce qu'il avait des idées sociales. Mm-hmm. On disait il est de la droite parce qu'il avait des privilèges à protéger. Mm-hmm. Alors au fond, c'est ça. Mm-hmm. Mais moi, je trouve qu'alors... Enfin, oui, si vous voulez, si on s'en tient au terme gauche et droite, alors si on s'en tient à ce terme-là, gauche c'est le communisme, droite c'est la réaction privilège. Bon, puis c'est tout. Alors après, il y a un tas de petites nuancettes. Mm-hmm. Je pense que ça peut représenter, si vous voulez, sur le plan.
Et si on... si on disait, ou si on vous disait que quand même le mouvement gaulliste a toujours été vu comme étant un mouvement légèrement ou même très, quelquefois même très à droite, comment est-ce que vous répondriez?
Ah, je dirais non. Ça, c'est des vues de l'esprit de journalistes ou d'information. Mm-hmm. Je ne connais, évidemment, dans le mouvement, il y a aussi des gros propriétaires, il y a aussi des gros seigneurs, tout ce que vous êtes d'accord, mais il y en a ailleurs. Mais je dis, le mouvement est quand même à base de 75% d'ouvriers. Mm-hmm. Moi, dans mon comité départemental, j'ai sur 20 membres, j'ai une dizaine d'ouvriers. J'ai deux fonctionnaires, j'ai deux commerçants, j'ai un toubib, j'ai un avocat. Pour vous dire que vraiment, on est très diversifié. On n'est pas... C'est pas un groupe monolithique d'intérêts. Le communisme, c'est un groupe monolithique d'intérêts. L'ancienne droite, si vous voulez, c'est un groupe monolithique d'intérêts aussi, qui ne sont pas diamétralement opposés. Tandis que nous, ben, on essaye de rassembler tout ça, puis d'en faire quelque chose qui fonctionne et qui tourne. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. Mm. Parce que ce n'est pas facile de rapprocher les extrêmes.
Non, ni de créer quelque chose de nouveau qui ne rentre pas dans les cadres anciens.
Non, surtout sortir d'un cadre rigide.
Oui.
Et c'est peut-être ça l'idée aussi, au fond, l'idée force du gaullisme, sortir d'un cadre rigide, agir au coup par des opérations qui permettent d'aplanir les difficultés. Parce que fixer un cadre rigide pour des Français, c'est aller à la catastrophe. Pas possible. Mm-hmm. La dernière en date, il n'y a pas de doute, c'est un souvenir qui est quand même important. Je me rappelle, c'est vieux quand même. Quand les Allemands sont arrivés en France, ou moins quand il y a eu ce lait en 40, la fameuse histoire Pétain, eh bien tous les Français ont crié « Vive Pétain !» 3 ans après ou 2 ans après, les Allemands ayant gâché, si vous voulez, à force de tuer ou de réprimer, tous les Français ont crié « Vive de Gaulle !» On n'aime pas être primé.